journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1. Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mardi 7 août 2018, dans le JDA, l'élection présidentielle au Mali. Les résultats définitifs du premier tour de cette présidentielle sont attendus demain. Le second tour opposera dimanche 12 août le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Mais les résultats sont loin de faire l'unanimité dans le pays. Plusieurs candidats ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Nous en parlerons avec Issa Traoré, président de la coalition Mali Ibeka 2018 France. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité, appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour Monsieur Gilad. Je demande à la communauté internationale de taper du poing sur la table face au pouvoir de M. Kabila. M. Kabila qui interdit à M. Moïse Katumbi de rentrer dans son propre pays. Peuple congolais, c'est à vous et vous seul qui avez le volant de la voiture qui peut conduire M. Moïse Katumbi au Congo. Peuple congolais, je suis ivoirien. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai vu ce que Moïse Katumbi a fait pour cette province-là. Moïse Katumbi est un grand bâtisseur. Peuple congolais, Moïse Katumbi vous a tout donné. C'est à vous de lui retourner l'ascenseur, peuple congolais. À Katumbi, ce qui est à Katumbi, c'est-à-dire la reconnaissance. Idriss, bonne journée.
Bonjour, chers auditeurs. J'en appelle à la population de la République démocratique du Congo. Je trouve vraiment très bizarre que Bemba soit libéré au dernier moment pour qu'il soit candidat en RDC à la présidentielle. Mais je veux dire quelque chose. Que les Congolais ne soient pas surpris si Bemba arrive au pouvoir, passe président et qu'il ne poursuive pas Kabila. Je sens comme une entente. Je sens comme une mission. Je sens comme un contrat qui a été signé avec Bemba pour qu'il soit libéré, pour qu'il arrive au pouvoir et que Kabila, puisque la population ne veut plus de lui et que l'Europe ne veut plus qu'il y ait la guerre au Congo pour leurs intérêts et que comme Bemba va être au pouvoir et que Kabila ne soit plus poursuivi. Je demande à la population de la République démocratique du Congo d'être sage et de faire très attention. Merci.
Bonjour, amis du JDA. Voilà, j'appelle pour répondre un peu à un auditeur qui vient d'intervenir concernant la nomination de Sidorf et de Kluivert pour la gestion des lions indomptables. Bon, il semblait déplorer le fait qu'il n'y ait pas un Cameroun à la tête des lions. Bon, je peux comprendre, mais en même temps, je pense que le Cameroun aujourd'hui a une méthode visiblement qui fonctionne, qui est éprouvée, parce qu'avec quand on a 5 titres de la CAN, donc ça signifie que les choix que nous faisons sont peut-être les meilleurs. Donc et en plus, je ne trouve pas anormal qu'il y ait un descendant de, je sais pas, africain qui se retrouve même pas à la tête des lions, parce que Kluivert et Sidorf auraient dû avoir des postes à la hauteur de leur talent, mais sauf que bon, ils n'ont pas cette possibilité. Et si le Cameroun leur donne cette possibilité, je pense que c'est une innovation que beaucoup d'Africains devraient s'inspirer. C'est pas pour autant que ça remet en cause des compétences internes. Nous avons une étape à passer, donc peut-être que ces jeunes pourront nous aider à passer cette étape. Donc moi, je souhaite la bienvenue à ces deux personnes qui ont été des footballeurs talentueux. Et Sidorf a toujours été reconnu par son sérieux, dont aussi ça peut aider les Lions à remporter nos titres. Ben, c'est la bienvenue. Voilà. Merci.
Bonjour, Africa numéro 1. Je demande à tous les ressortissants maliens des diaspora, qui sont à la diaspora, d'appeler, isoler leur famille au pays, à Bamako, au village, toutes les villes de Mali. N'allez pas voter pour Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour. Les Maliens de diaspora, vous avez vu comment il faut faire pour avoir les passeports. Il y a des gens qui ont perdu, ils ont leur travail. Il y a des gens qui ont perdu, ils ont leur famille à cause de la carte NINA et la E. Parce que si vous n'avez pas la carte NINA, vous n'avez pas de passeport. Donc vraiment, les Maliens des diaspora, il y en a qui ont eu des problèmes de passeport, qu'ils ont perdu, ils ont leur travail et ils ont leur famille. Réfléchissez, vous avez des frères ici, vous avez des sœurs ici, vous avez des mamans ici. Ne laissez pas votre famille d'aller voter pour Ibrahim Boubacar Keïta. Sinon, ça sera les catastrophes. Les gens vont regretter. Que Dieu bénisse Mali et l'Afrique. Au revoir.
Bonjour, je veux parler à tous les Maliens pour le deuxième tour, d'être vigilants. Chers Maliens, moi je remarque quelque chose au niveau du journal du Mali, de télévision nationale du Mali, le 4 mois d'août. M. Ibeka, il a débloqué un somme très important pour aider les gens et amener ça à la Mecque pour le pèlerinage de cette année 2018. Ce genre que M. Ibeka qui a organisé cet mouvement, c'est un gaspillage inutile. C'est plus que 20 personnes. 7 personnes, ça va coûter l'État 45 000 euros. 45 000 euros. Donc, à 45 000, on prend 20 personnes, ça fait 90 000 euros. À ces 90 000 euros, on peut acheter si le monsieur vraiment, ce n'est pas de bons moments même en cours des élections, et pour que les gens votent pour lui. Si le monsieur il est beaucoup intelligent, il doit laisser d'abord, après des élections, au lieu de gaspiller l'argent public, acheter 15 tonnes de riz parfumé à distribuer les Maliens qui sont refusés. Mauritanie, Burkina Faso, et Niger, le Malien veut que le président élit qu'il donne le travail. Merci, JDA.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc, dans le JDA, l'élection présidentielle au Mali. Le second tour opposera dimanche 12 août le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle sont attendus demain. Des chiffres publiés déjà la semaine dernière par le ministre de l'administration territoriale créditaient le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, de 41,42% des voix contre 17,80% des voix pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Cependant, ces résultats sont loin de faire l'unanimité dans le pays. Plusieurs candidats ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Signe de ce climat de défiance, 18 candidats de l'opposition ou leurs représentants ont réuni la presse hier à Bamako et ils dénoncent un coup d'État électoral. Fin de citation. Nous avons en ligne Issa Traoré. Issa Traoré, bonjour.
Bonjour monsieur Nadir.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes le président de la coalition Mali Ibeka 2018 France. Vous soutenez donc le président sortant. Que répondez-vous à l'opposition qui parle aujourd'hui de coup d'État électoral?
Bon, moi je dirais tout simplement que c'est une fuite en avant. Parce que nous ne comprenons pas finalement l'attitude de cette opposition que j'ai qualifiée souvent d'inconséquente,
oui.
Une opposition irresponsable.
D'accord.
Pourquoi? Parce que le processus électoral malien a été inclusif.
Oui.
Et toute l'opposition dans son ensemble a été associée,
oui,
au processus électoral.
D'accord.
D'abord, l'opposition à sa demande, la liste électorale a été révisée.
Oui.
Une nouvelle loi électorale a été votée
ouais.
à l'Assemblée nationale, qui a pris en compte 90% de propositions, 90% de propositions de l'opposition.
D'accord.
Et entre autres, donc nous avons une innovation dans cette loi qui permet la présence de deux assesseurs, c'est-à-dire un
ouais.
assesseur de l'opposition et ouais. un assesseur de la majorité
ouais.
qui sont dans chaque bureau de vote.
D'accord.
22 842 bureaux de vote au Mali.
D'accord. Alors, donc, cependant, Issa Traoré, l'opposition et notamment le camp de Soumaïla Cissé, estime que, je cite, les bourrages d'urnes, la violation de la loi électorale et les irrégularités constatées expliquent les scores du président sortant dans le Nord et le Centre. Que répondez-vous à cela?
Oui, voilà, justement. Vous voyez bien qu'ils ont ciblé des zones où, effectivement, malheureusement, c'est-à-dire nous déplorons que les Maliens comme moi, c'est-à-dire n'ont pas pu vraiment jouir de leurs droits constitutionnels, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu des incidents dus à l'insécurité au centre et puis un peu au nord.
D'accord.
Et puis n'oubliez pas aussi que nous sommes dans une saison hivernale et qu'il y a les difficultés d'accès à certaines zones.
D'accord.
Donc, ce n'est pas dû tout simplement à l'insécurité. Voilà.
D'accord.
Donc, je voudrais quand même dire à cette opposition pourquoi elle ne parle pas de bourrage dur, c'est-à-dire du sud, c'est-à-dire de Kaï, en passant par Bamako, qui est l'épicentre, c'est-à-dire de leur contestation, où le candidat Soumaïla Cissé est arrivé troisième, même pas deuxième, mais troisième à Bamako, dans les six communes de Bamako. Donc, dans son fief électoral à Niafunki, Soumaïla Cissé, il a été battu chez lui.
Oui.
Et tous les candidats aujourd'hui protestataires ont été battus par le candidat sortant.
D'accord.
Donc, il nous explique. Et aujourd'hui, pourquoi à Bamako, il ne parle pas du bourrage d'urne et pourtant le président de la République, il a gagné là-bas.
D'accord.
Donc, à Sikasso, qui est la région, c'est-à-dire la plus forte région électorale du Mali, où le président, il a écrasé, si je peux me permettre de dire ainsi, le maire même de Sikasso, qui est aussi candidat, M. Khalifa Sanogo.
D'accord.
Donc, partout, de Kaï, Bamako, Kouloubou, Sihou, Sikasso, et donc ainsi de suite, le président de la République, il a gagné partout.
D'accord.
Donc, on nous explique comment ça se fait qu'il cible juste une zone où, effectivement, il y a eu une poche d'insécurité. Et voilà, donc, moi, je ne comprends pas vraiment l'attitude de cette opposition. Mais d'abord, qu'il nous explique, voilà, pourquoi...
Issa Traoré, cependant, il y a quand même un climat de défiance pour ce second tour. Alors, plusieurs candidats, il y a Soumaïla Cissé, mais il y en a d'autres. Il y a Madame Muntaga, ou encore Oumar Mariko, qui ont demandé un recomptage des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que cela ne permettrait pas de lever le doute une bonne fois pour toutes?
Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que la loi ne m'oblige pas le gouvernement de publier les résultats bureau de vote et par bureau de vote.
Oui.
Donc, ce n'est en nullement une obligation pour le gouvernement.
D'accord.
Bon, voilà. Et donc, nous sommes sereins, nous attendons tout simplement la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle.
D'accord.
Et donc, vous évoquez à l'instant les 18 candidats ou les 16, parce qu'en général, en fait, quand ils font leur conférence de presse, ils donnent des noms des candidats qui, après quelques minutes, c'est retiré de l'église.
Oui.
Nous ne savons même pas si c'est 18 ou bien si c'est 16. Mais bon, peu importe.
Oui.
Mais la ressemblance de ces 16 ou de ces 18 candidats, c'est qu'ils ils n'ont aucun projet de société à proposer par
D'accord.
rapport au bilan du président et sortant.
D'accord.
En fait, ils n'ont pas compris ce que c'est le message que les électeurs maliens ont voulu exprimer le 29 juillet 2018.
D'accord.
En réalité, les Maliens ne veulent pas cette opposition irresponsable.
Oui.
Donc, ils ont passé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils n'ont cessé de dénigrer, d'essayer de camoufler le bilan du président sortant.
D'accord.
Et donc, à un certain moment donné, donc les Maliens ont compris, quand nous avons commencé à expliquer le bilan du président de la République, qu'en réalité, il avait fait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de défis qui étaient là en 2013. Et ils ont compris que le président de la République, effectivement, a consenti d'énormes sacrifices pour qu'aujourd'hui, le Mali... Il les trouve dans le Conseil des Nations.
D'accord.
Et donc, en face, on a trouvé qu'il y a une opposition. Son projet de société, c'était tout sauf IBK.
D'accord.
Et ils ont compris aujourd'hui que tout sauf IBK ne marche pas. C'est un slogan, mais derrière, il n'y a rien.
Cependant, Issa Traoré, comment expliquez-vous qu'une partie des Maliens, et aussi des Maliens qui vivent ici en France, et les Maliens de la diaspora, veulent un changement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un déficit de l'image du président sortant? Avez-vous le sentiment que vous n'avez pas assez expliqué l'action du président?
Oui, mais justement, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que nous étions en difficulté parce qu'on n'avait pas assez expliqué son bilan.
D'accord.
Mais à partir du moment où nous avons commencé à expliquer ce bilan-là, justement, c'est le résultat de ce qui s'est passé le 29, parce que l'opposition comptait sur ça, c'est-à-dire le geste systématique du président de la République. Et qui, voilà, donc leur slogan, c'était le dénigrement, le camouflage de son bilan. Quand nous avons commencé à expliquer, donc les Maliens, ils sont lucides. Les Maliens, ils ont compris, y compris la diaspora, que effectivement, le président de la République a été à la hauteur des missions que le peuple malien lui avait confiées en 2013.
D'accord.
Donc, raison pour laquelle cette opposition elle est en difficulté aujourd'hui, parce qu'en fait, elle ne comprend pas, elle n'a pas tiré les leçons du premier tour.
D'accord.
Elle continue à piétiner. Juste imaginez la loi électorale qu'elle a défendue, Bec-Léon, et elle est la première à à piétiner cette loi. Parce que imaginez au lendemain du 29 juillet, c'est cette proposition qui a commencé à fuiter des résultats, trois candidats parmi les 10 que vous avez cités, pour dire que voilà, donc ils sont tous au deuxième tour. Donc nous sommes sereins, le président de la République, il était serein, nous n'avons pas divulgué des chiffres.
D'accord.
Mais par contre, eux, alors que c'est le ministère de l'administration territoriale qui était le seul habilité à le faire.
D'accord. Alors, Issa Traoré, donc le second tour opposera Ibeka à Soumaïla Cissé. Alors, beaucoup de Maliens souhaitent qu'il y ait un débat télévisé entre les deux candidats. Est-ce possible? Y aura-t-il un débat télévisé?
Oui, en fait, ça, c'est du ressort du... C'est le président de la République qui peut répondre à cela. Donc, encore une fois, je rappelle que le débat entre les deux candidats n'est pas une obligation au regard de la loi.
Ouais.
Donc, maintenant, il revient au président, au candidat Ibrahim Boubacar Keïta de décider si... Parce que, imaginez, moi-même, personnellement, je ne souhaite pas ce débat. Pourquoi? Parce que nous avons un candidat, Maïla Sissi, qui, depuis 4 ans, ne cesse, c'est-à-dire de calomnier, de dénigrer le président de la République. Donc, débattre avec quelqu'un qui n'a aucun projet de société, donc qui a comme arme...
Justement, ce serait l'occasion pour les deux candidats de s'affronter lors d'un débat serein et démocratique, non? Ce n'est pas une bonne idée?
Non, pour moi, les Maliens, ils ont compris. Le message est très clair. Donc, c'est que conforte, quand vous voyez son chiffre, 41,42%.
Oui.
Je vais vous expliquer, monsieur Nadir, pour que vous puissiez comprendre.
Oui.
En 2013, le président de la République a eu 39%.
D'accord.
39%. Et le candidat, son challenger, monsieur Sissé, a eu 19%.
D'accord.
Et au lendemain du 29 juillet, donc le président sortant, il a eu 41,42%, c'est-à-dire soit 3 points de plus.
Très bien.
Et M. Cissé, il a eu 17%, donc il a perdu à peu près 10 000 voix de moins. Et alors que le président Ibeka, il a eu 150 000 voix de plus.
Ouais.
Donc ce qui prouve vraiment l'adhésion du peuple malien, c'est-à-dire par rapport à son bilan, et il lui donne aussi un petit pour un deuxième mandat.
Très bien.
Voilà.
Restez avec nous, Issa Traoré. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Mali Ibeka 2018 France. Nous allons prendre des auditeurs qui sont déjà nombreux à vouloir intervenir pour cette émission d'aujourd'hui. Nous avons en ligne Dramé. Dramé, bonjour.
Ah, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien?
Ça va, merci Dramé, et vous?
Ah ben, ça va très bien.
Oui.
D'abord, je trouve que c'est gentil, mais vous avez donné trop les paroles à M. Traoré qui nous raconte des blablabla, blablabla, ceci, cela.
Oh, attendez,
moi,
Dramé.
Moi, j'aimerais intervenir parce qu'il ne faut pas qu'il parle au nom de tous les Maliens.
D'accord.
D'abord, il ne faut pas qu'il parle au nom de tous les Maliens.
Non, mais juste une chose, Dramé. Avant de poursuivre, Dramé, s'il vous plaît, avant de poursuivre, je le dis à tous les auditeurs qu'aujourd'hui, nous avons invité Issa Traoré, président de la coalition Mali-Ibeka 2018, et demain, nous avons invité un représentant en France de Soumaïla Cissé. Voilà, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà.
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, en Afrique, quand il y a une élection, il y a toujours des associations qui se créent pour s'engraisser. On sait ça en Afrique, et lui, il fait partie. Il est en train de s'engraisser sur le dos des Maliens. Mais il y a trois choses que moi, je vais intervenir.
S'il vous plaît, oui, allez-y.
Ibeka, en 2013, quand il venait, il avait dit que si je viens, je résoudrai les problèmes du Nord.
Oui.
Il a dit que si je viens, aucun Malien des diasporas, il va souffrir à l'ambassade. Aucune ambassade, il va faire des mal aux Maliens à l'extérieur, etc. Il a dit que quand je reviendrai, je rétablirai les corruptions. Les corruptions, celui qui fera les corruptions, on va les mettre en prison. Il a dit ça, tout le monde a entendu ça.
Oui.
Mais moi, je vous dis, les vérificateurs généraux, ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé qu'il y a... De corruption a été un niveau au Mali, on ne peut même pas parler. Tout le monde en sait ça. Tu vois, les Maliens, ils galèrent, on n'arrive pas à s'en sortir.
D'accord.
Ibrahim Boubacar Keïta, il a détruit le pays. Il n'y a jamais eu de soldats morts autant de quelqu'un d'autre que. Moi, j'étais supporter de Ibeka en 2013. Hein.
Ouais.
Nous tous, on l'a soutenu à cause de sa parole.
D'accord.
Et Ibeka, il a tenu ses paroles. Il n'a jamais tenu ses paroles. Il nous a mis dans la merde.
D'accord, s'il vous plaît, gardez votre sang-froid, Dramé, s'il vous plaît. Nous sommes à la radio, beaucoup de gens vous écoutent, s'il vous plaît. Vous pouvez être passionné, je comprends très très bien, mais s'il vous plaît, gardez votre sang-froid.
Excusez-moi, c'est M. Traoré d'abord. Vraiment, il faut qu'il arrête de parler au nom de tous les Maliens. Il faut qu'il arrête de parler au nom de tous les Maliens. Parce que franchement, nous, on a nos parents qui souffrent au pays.
D'accord. Très bien.
Nous, on souffre ici.
Très bien, Dramé. Nous avons compris.
Il a résolu. Ouais, il faut que nous dit l'IBK, qu'est-ce qu'il a fait pour Mali.
Très, très bien. Alors, on va lui donner la parole tout de suite, Dramé, avant de prendre un autre auditeur. Alors, Issa Traoré, c'est vrai que dans les critiques qui reviennent souvent concernant l'action du président IBK, c'est la situation ici des Maliens de France dans l'attente de pour obtenir des titres des papiers, des passeports et des cartes d'identité, et aussi la question de la sécurité dans le pays. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, déjà, je vais répondre à M. Dramé qui garde son sang-froid, parce que justement, c'est l'illustration la plus parfaite.
Oui.
Et avec l'opposition qui s'agite comme ça, il n'y a rien. Voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les Maliens. Donc, je défends la majorité présidentielle, donc notamment mon candidat.
Oui.
Il peut défendre aussi le sien, donc ce n'est pas un problème.
D'accord.
Donc, en ce qui concerne ici, je pense que tous les Maliens de France ont compris. Il y a eu vraiment un changement notoire au niveau du consulat ici. Vous imaginez quand le président de la République arrive au pouvoir.
D'accord.
En fait, les Maliens n'ont pas compris parce qu'il y avait. Et il fallait aussi avoir une carte NINA, c'est-à-dire le numéro d'identification nationale. Il fallait pour avoir le passeport. Donc, ce n'était pas. L'œuvre du président de la République, donc c'était son prédécesseur.
D'accord.
Donc, quand le président de la République est arrivé au pouvoir, c'est vrai que donc ça, il fallait remédier, trouver une solution. Donc, il y a eu des complications pour certains. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on fait une demande de passeport, on a son passeport au bout de 2 semaines.
D'accord.
Au bout de 2 semaines au consulat du Mali. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut en témoigner.
D'accord.
Voilà. Donc, en ce qui concerne le centre, l'insécurité.
La sécurité, oui.
La sécurité. Donc, sauf si on est de mauvaise foi, sinon tout le monde a compris l'effort considérable que le président de la République a consenti à travers la loi d'orientation et de programmation militaire au Mali, qui concerne 22% du budget national.
D'accord.
À la sécurité des Maliens.
Donc, d'accord,
quand le président de la République arrivait au pouvoir, nous avons vu que 4 militaires maliens partageaient une arme aujourd'hui.
D'accord.
Donc, chaque militaire possède une arme. Donc, nous avons aujourd'hui des avions de combat au nombre de 11, sinon 13 aujourd'hui, alors que quand le président de la République arrive au pouvoir, il n'y en avait aucun.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, l'armée malienne, c'est-à-dire, n'est plus sur la défensive, elle est sur l'offensive.
Ouais, mais cependant, les violences se poursuivent. Hein. Il y a encore des attaques dans plusieurs régions du pays.
Oui, ça dit qu'il y a l'instrumentalisation parce que il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ce qui se passe au centre.
Oui.
Parce que ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, il y a certains qui sont en train d'instrumentaliser justement pour créer un conflit ethnique.
D'accord.
Entre Peul et Dokon. Donc, le gouvernement est en train de gérer ce conflit-là avec discernement, avec lucidité.
Très bien.
Donc, je pense qu'au fur et à mesure, donc cette situation sera réglée.
Restez avec nous, nous allons prendre d'autres auditeurs. Nous avons en ligne Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Ce que je voulais dire à M. Traoulé,
oui.
M. Ibeka, il a essuyé son mandat de première 5 ans.
D'accord.
Il ne faut pas qu'il essaie de nous convaincre à une manière et l'autre, comme quoi M. Ibeka, il a fait tel.
Ouais.
Nous tous, on est grandis à Bamako, on connaît Bamako.
Ouais.
Aucun jeunesse de Bamakoise qui aime ces vues-là,
ouais,
avec sa famille et ses enfants, qui fait trop de mal.
Ouais.
Pas seulement la sécurité que M. Ibeka a été élu pour le Nord, mais la corruption qui est plus grave.
Ouais.
Le monsieur, là, je ne sais pas comment je vais vous dire, il n'est pas pitié des Maliens.
Ouais.
M. Dramé est venu de soulever, c'est un mot qui est très important, comme M. Ibeka est venu au pouvoir, mais tous les Maliens d'extérieur des diaspora, j'ai fait les services de qualité à l'ambassade.
Ouais.
Le Malien des diaspora que je connaissais à Paris, le consulat de France, et pris à l'otage par la corruption et la sécurité du Mali. Le consul, c'est l'étranger qui nous sécurisait, au lieu d'envoyer les gendarmes en civil pour sécuriser le consulat. Excuse-moi ce terme, il y a certains Africains qui ont la sécurité, qui ne respectent pas le population malien qui vient pour leurs affaires.
D'accord.
Donc, un mot que je vais vous dire, M. Traoulé, vous allez nous faire honte. Pour le premier tour, vous allez voler les élections, vous allez faire tout pour décourager les partisans d'Ismaïla Sissé.
Très bien, Koulibaly. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons d'autres auditeurs. Ibrahim, bonjour.
Oui, merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, je ne suis pas malien.
Oui.
Je suis du Burkina Faso.
D'accord.
Donc, je viens avec mon œil étranger, l'observateur étranger,
oui,
pour dire ceci. C'est juste... quand on regarde comment le président sortant a été battu en France, aux États-Unis, dans la diaspora, comment peut-on expliquer qu'à l'intérieur, qu'il gagne autant de suffrages?
D'accord.
C'est quand même étonnant.
Donc selon vous, le président sortant, Ibeka, a été battu parmi la diaspora, c'est ce que vous voulez dire? Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça?
Sur quoi je me base pour dire ça? Je me dis, ben, c'est du bon sens. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il a été battu. Peut-être qu'il a gagné, peut-être à l'intérieur, mais pas de façon transparente. Vous voyez? Et les achats.
Mais comment vous le savez? Parce que, comme vous venez de le dire, vous êtes burkinabé et que vous observez de loin l'élection.
Oui, pas trop de loin, parce que je suis
d'accord.
À côté, mes amis sont des Maliens,
bien
j'ai
sûr.
Regardé des vidéos, j'ai
d'accord.
Regardé des reportages, j'ai vu les achats de voix, c'est honteux, parce qu'ils pillent dans la caisse de l'État, comme si c'était son grenier familial,
oui,
pour distribuer à des pauvres, utiliser la misère, instrumentaliser la misère des Maliens pour les amener à les voter. Moi, je n'ai pas la preuve comme quoi il a bourré des urnes, ça,
ouais,
je n'ai pas la preuve.
Ouais, ouais.
Mais j'ai la preuve qu'il a acheté des voix. Et ça, déjà, ça me suffit.
Mais la preuve, oui, quelle preuve vous avez, Ibrahim, excusez-moi.
Il y a plus de centaines de vidéos, demandez à ceux qui vous appellent, ils pourront témoigner.
D'accord.
Et on voit très clairement qu'il a ces lieutenants qui sont en train de distribuer de l'argent à des gens. Oui, 15 000, 5 000. J'ai mon ami personnel qui fait sa thèse en droit constitutionnel et il est de Caille, dans une petite ville. Il m'a dit le chef du village a reçu 30 millions.
D'accord.
Je le crois. Donc moi, à partant de ça, moi je déteste les achats de voix. Si on
d'accord.
L'achète avec ses propres fonds, ok, mais vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'État et gaspiller comme ça. Et ce qui me fait mal, pour terminer,
oui,
ce qui
s'il
me
plaît.
Fait
oui.
Mal, même si Soumaïla Sissé arrivait, ou bien quelqu'un d'autre arrivait, ce monsieur ne va même pas rendre compte. C'est-à-dire le président sortant ne sera ni accusé, ni condamné pour ça.
Très très bien.
Et on continue comme
merci.
Ça ne finit jamais.
Merci beaucoup Ibrahim pour votre intervention. On redonne la parole à Issa Traoré, président de la coalition Mali Ibeka 2018 France. Issa Traoré, alors vous avez entendu hein, les auditeurs, hein, il y a beaucoup de critiques, notamment sur... Alors tout d'abord, concernant le vote de la diaspora, est-ce que vous avez, vous, des précisions concernant les résultats des principaux candidats et aussi concernant la lutte contre la corruption?
Tout à fait. En fait, en ce qui concerne le vote de la diaspora, c'est-à-dire ce que ces intervenants viennent dire sont fous et archi-faux.
Oui.
Je concède que nous avons perdu ici
oui.
En France.
Soumaïla Sissé est arrivé en tête hein, en France.
Il est arrivé en tête avec 38% et
oui.
Le candidat Ibeka à 32%.
Oui.
Donc la diaspora la plus forte communauté malienne, ce n'est pas la diaspora européenne. Voilà. Donc la plus forte communauté malienne, ça se trouve en Côte d'Ivoire, la
ouais.
Diaspora africaine.
Ouais.
Donc ils nous disent que le président de la République, il a gagné dans tous ces pays africains.
Ouais, ouais.
La Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, etc.
D'accord.
Donc c'est uniquement en France, aux États-Unis, parce que nous n'avons pas au premier tour, nous avons minimisé le risque et nous n'avons
oui.
pas assez mobilisé nos électeurs.
Oui.
Et ça, donc, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment pour le deuxième tour. Nous sommes sur le terrain, on est en train de convaincre, donc porte à porte, on est dans les foyers, on est en train de convaincre voilà, les gens.
Oui.
Et les Maliens, aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été créée et les gens se rendent compte effectivement que beaucoup a été fait et qu'ils adhèrent au projet présentiel. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'ils racontent, des histoires de corruption, moi,
oui.
ils n'ont pas la preuve, et aussi, ils n'ont pas la preuve également. Bon, voilà. Donc, comme ils ont fait pendant 4 ans, les calomnies, les dénigrements, voilà. Donc, ça continue.
Mais est-ce que c'est une priorité du président sortant, Ibeka, la lutte contre la corruption pour son prochain mandat, s'il est élu?
Mais évidemment. Déjà, ça l'était, son premier mandat. Imaginez que quand ils évoquent le rapport du vérificateur général, le président de la République, il reçoit le rapport, il les envoie au ministère de la Justice.
Ouais.
Donc, il n'y a pas besoin de vous rappeler qu'il y a une séparation des pouvoirs.
Ouais.
Donc, maintenant, ça appartient à la justice de faire son travail.
D'accord.
Donc, contrairement à ses prédécesseurs, lui, il envoie les rapports au ministère de la Justice. Donc, c'est au ministère de faire son travail. Donc, si ça n'a pas été fait, on ne va pas en vouloir au président de la République de ne pas faire voilà, ce qu'il avait promis.
D'accord.
De toute façon, pour son prochain mandat, je pense que la lutte contre la corruption sera l'une des priorités de son nouveau quinquennat.
Mmh. Nous avons ligne Manjou. Manjou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, on vous écoute, Manjou.
Écoutez, avant d'aller loin, je vous précise que je suis anti-Soumaïla. Hein. Je ne suis pas du tout pour Soumaïla.
Il n'a
jamais été mon candidat.
D'accord.
Mais je voudrais dire à votre, le laudateur du président qui est chez vous, là.
Oui. Porte-parole, enfin président de la coalition IBK 2018 France, oui. Allez-y.
Oui, porte-parole, laudateur, c'est pareil. De toute façon, qui respecte les Maliens et qui chasse une chose, que les Maliens se sont sacrifiés pour la démocratie.
Oui.
En 91, les Maliens se sont sacrifiés.
Oui.
Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont venir bafouer cette valeur qu'on a construit.
D'accord, oui.
On le sait tous, tout le monde le sait, que, parce que là, vous avez demandé des explications, il n'y a aucune explication à vous donner.
Oui.
Et son gourou qui est là, il ne serait pas capable de leur faire un face-à-face à la télé.
Oui.
Il n'aura rien à dire au peuple.
Mmh.
Tout le monde le sait.
On n'en sait pas encore, hein, pour l'instant, on ne sait pas si le président participera à un débat.
Il aura dit, qu'est-ce qu'il va dire au peuple.
D'accord.
Si n'a pas gagné, ça veut dire que si on va dans les élections libres et transparentes, il n'est même pas arrivé quatrième.
Mmh.
Ça, je le dis, monsieur. Il n'est même pas arrivé quatrième.
Oui. Très bien.
Et là, ils sont en train de dire à Bamako, il faut qu'ils sachent que Bamako, c'est pas que Bamako, les Mali, ça ne s'arrête pas qu'à Bamako.
Oui.
Il n'y a pas que Bamako.
D'accord.
Du nord au sud, à l'est, le monsieur n'a pas gagné. Il faut qu'il arrête de remettre le couteau dans nos plaies. Et mais si il continue comme ça, ça, je vous le dis, l'épée, ça va prendre du feu.
D'accord.
Moi, pas pour ni l'un pour l'autre.
Très bien, merci beaucoup. Merci Manjou pour votre intervention. Nous retrouvons notre invité Issa Traoré, hein, président de la coalition Mali IBK 2018 France. Alors Issa Traoré, les candidats malheureux ayant fait les meilleurs scores au premier tour sont courtisés par les finalistes, mais pour le moment ils se font plutôt désirer. Y aura-t-il des ralliements, d'autres ralliements, parce qu'on sait qu'il y a déjà Madame Djeneba Ndiaye qui appelle à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta. Y aura-t-il d'autres ralliements? On a le sentiment que c'est plutôt Soumaïla Cissé qui est favorisé par d'éventuels ralliements.
Pas du tout. En fait, l'union de ces candidats malheureux, elle est faite sur la base, c'est-à-dire de la haine envers le président sortant. Donc, pour l'instant, ils sont au niveau de la contestation.
Ouais.
Vous allez voir, si c'était le cas, je pense que dès le premier tour, il y aurait eu un candidat unique de l'opposition.
Ouais.
Si ça n'a pas été possible, parce que donc vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas possible, même pour le deuxième tour. Donc ils sont aujourd'hui dans une phase de contestation. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, comme je vous ai dit, il y a la dynamique, il y a des négociations qui sont en cours.
Ouais.
Je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui vont nous rejoindre. Même parmi ceux qui sont aujourd'hui contestataires, qui contestent les résultats, il y aura certains parmi eux qui vont nous rejoindre. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc pour nous, il y a vraiment c'est une sérénité totale, il n'y a aucun souci et nous sommes sereins. Nous pensons que pour le 12 août, le peuple malien va amplifier davantage et réconforter effectivement le président de la République pour que qu'il ait le quitus nécessaire.
Ouais.
Et, d'achever les œuvres qu'il avait commencées pour son premier mandat.
Mmh. Mais cependant, il reste quelques jours pour faire campagne. Est-ce que quand même le président IBK est avantagé par rapport à son adversaire, car il est président et il dispose de moyens peut-être plus importants pour faire campagne?
Le problème, c'est que c'est pourquoi les intervenants, je pense qu'ils n'ont pas, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils n'ont pas les bonnes informations.
Mmh.
Je pense que le candidat qui a plus dépensé dans cette élection, c'est bien Monsieur Cissé, ce n'est pas Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. D'ailleurs, il n'a même pas utilisé les moyens de l'État, puisqu'il a fait sa campagne, il n'a pas utilisé l'avion présidentiel, donc ni les moyens de l'État.
Ouais.
Donc il a loué un avion privé, pour faire ses déplacements, etc.
Mmh.
Donc, il n'a nullement utilisé le moyen de l'État. Donc, Donc, pour moi, il n'y a pas de dysfonctionnement dans ce sens-là, quoi.
Restez avec nous, on vous donnera le mot de la fin. Nous allons prendre un autre auditeur. Issa, bonjour. Allô, Issa.
Oui, bonjour. Bon. Moi, je ne voulais pas rebondir au secours d'Issa Traoré, mais pour juste poser des questions.
Ouais.
À savoir, la première, le président IBK, il a été élu sur deux créneaux phares, la sécurité et l'éducation au Mali.
Ouais.
Nous avons constaté que l'impunité est arrivée à son comble au Mali aujourd'hui.
Ouais.
Comment il explique cela?
D'accord.
Et l'abandon total de l'enseignement au Mali de façon générale, de l'université au primaire,
ouais.
Les écoles privées sont devenues un fonds de commerce aujourd'hui. Mali.
D'accord.
Et si le président Ibeka a notamment quelque chose à nous proposer par rapport à ça.
D'accord.
Sinon, l'opposition africaine, c'est pareil, comme au Mali, ils ne sont jamais unis, ils ne s'entendent pas, et cette opposition, elle n'est pas du tout crédible parce qu'elle a montré cette division depuis avant les élections.
D'accord.
Ils ne sont jamais capables de réunir un seul candidat et faire un bloc derrière. Et pour Soumaïla Cissé, tout le Mali le connaît, il ne peut rien brandir aujourd'hui. Que la diaspora en Europe arrête de dire que la diaspora ne se limite qu'à l'Europe, il y a la diaspora africaine.
Oui, exactement.
Ce monsieur, il a trouvé un état à l'abandon. On sait ce qu'il a fait pour le Mali et nous sommes aujourd'hui, si le peuple malien est demandeur de beaucoup de choses, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un état Mali qui existe. Dans un pays où le président de la République a été frappé dans son palais, vraiment que les Maliens n'oublient pas vite, aujourd'hui, Ibeka, aujourd'hui, il a mis en place un État.
D'accord.
Et c'est de ça maintenant que les sujets étatiques rebondissent. Il faut reconnaître ces mérites-là à ces
D'accord. Alors donc, vous avez deux questions. C'est concernant le programme du président sortant, concernant l'éducation nationale et l'économie. Hein. C'est ça.
Non, la sécurité.
La sécurité.
L'éducation nationale.
Très bien.
La sécurité, surtout l'impunité dans tous les Mali.
Très bien. Merci.
Que la justice aussi fasse son travail au Mali. C'est cette corporation est à l'abandon au Mali.
Très bien. Merci Issa pour votre intervention. Bah, nous retrouvons notre invité Issa Traoré. Alors concernant donc le programme du président sortant candidat concernant l'éducation nationale et la sécurité, même si vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment l'impunité dont bénéficieraient par exemple certains auteurs d'attaques.
Non, bon, je dirais pas l'impunité à ce niveau-là parce que vous savez quand on récupère un État en lambeaux comme il a si bien dit Monsieur Issa, reconstruire un État c'est un processus long. Donc, il demande beaucoup d'efforts.
Ouais.
Et ce sont ces efforts qui sont en train d'être mis en œuvre par le président de la République. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au fur et à mesure, donc, les Maliens se rendent compte que force reste à la loi et que
D'accord.
la loi elle est appliquée dans sa dernière rigueur. D'ailleurs, l'illustration la plus parfaite, c'est que le célèbre chroniqueur aujourd'hui... Et fait son émission dans une radio.
Faites vite, donc, Monsieur Traoré, parce que là, le temps, il nous reste 40 secondes. Oui.
Vient d'être fermé, parce que donc, ce monsieur se permet à une incitation à la violence.
D'accord.
Et, donc à la radio, qui vient d'être fermé. Donc, chose qui ne se faisait pas avant.
D'accord.
Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, l'État reprend ses droits partout au Mali.
Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci Issa Traoré d'être intervenu dans le journal des auditeurs. Merci aux auditeurs pour vos appels. Et sachez que demain, donc, comme nous l'avions annoncé dès le début de ce JDA, ce sera le porte-parole de Soumaïla Cissé en France qui sera notre invité dans le journal des auditeurs. Merci à Maxime pour la réalisation. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.